Oui, merci pour cette prière. C'est vraiment ça. On peut faire beaucoup d'efforts avec notre cerveau, arriver à comprendre beaucoup de choses, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour faire descendre du cerveau, pour arriver jusqu'à pénétrer au plus profond de notre cœur et de notre âme. Et vraiment, je remercie le Seigneur pour cette dépendance-là, parce que si ça reposait simplement sur des arguments humains, eh bien, ça serait bien, bien faible. Alors, un petit rappel simplement de ce que nous avons vu lundi dernier pour que tout le monde puisse raccrocher les wagons. Christ est supérieur aux anges, son règne est au-dessus des leurs, il s'est abaissé en dessous des anges jusqu'à s'identifier à nous, les hommes, et puis il a accompli ce merveilleux salut et il est remonté, régné au-dessus de toute la création et de toutes les créatures, les anges y compris. Et puis, nous n'avons pas eu le temps de le voir, mais ça faisait partie de cette même section, que Christ est aussi supérieur à Moïse pour le peuple de Dieu. C'est un leader qui est supérieur à Moïse et supérieur aussi à Josué. Vous savez, Moïse, c'est celui qui a accompli la délivrance du peuple égyptien, de Pharaon, et Josué est celui qui les a amenés dans la terre promise. Et cet événement dans l'Ancien Testament est un type, un type. Il y a une typologie, quelque chose qui préfigure une libération plus importante, qui est celle non pas de la libération d'un gouvernement politique, d'un esclavage humain, mais de l'esclavage du péché, pour nous conduire non pas dans une terre terrestre simplement, mais dans nous donner cette assurance du salut éternel, nous accorder la vie éternelle. Alors ce soir, nous allons poursuivre. J'ai rappelé ces derniers points lundi, c'est que l'Ancien Testament nous explique qui est Christ, et on voit dans l'Épître aux Hébreux, c'est une des épîtres dans le Nouveau Testament qui va le plus puiser dans l'Ancien Testament. Il s'est abaissé pour nous sauver, et donc il a remporté la victoire sur tout, absolument tout, par les souffrances qu'il a endurées pour nous à la croix. Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Alors, je vous remets le plan de l'Épître pour que nous puissions tous bien nous remettre ça dans la tête. Il y a l'introduction, ce sont les quatre premiers versets, la thèse que va développer tout au long l'auteur. Et puis, il y a quatre blocs où il veut démontrer que donc, Christ est supérieur aux anges, à Moïse et Josué. Ça, c'est vous voyez les références qui sont au-dessus. Et puis, Christ aussi supérieur aux prêtres, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et Christ, l'auteur d'une alliance supérieure, d'une alliance définitive, une alliance parfaite, celle qu'il a scellée par son propre sang. Et donc ce soir, nous allons voir ces deux parties, et vendredi, nous verrons les implications pour la foi que dégage l'auteur, et puis nous traiterons aussi rapidement dans tout l'épître, il y a plusieurs avertissements par rapport à la foi, et où des personnes étaient tentées d'abandonner la foi. Et il y a derrière cette question de la foi, bien sûr, l'assurance du salut. Est-ce qu'un chrétien authentique, né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, peut abandonner la foi en Christ? Est-ce qu'il peut repartir à son ancienne vie? Est-ce que cette chose est possible? Eh bien, nous l'examinerons vendredi et nous verrons toutes les sources de réconfort qu'il y a dans cette doctrine-là, mais aussi toutes les appels à nous examiner vraiment pour savoir si nous sommes dans la vraie foi. Parce que c'est très important, c'est une question d'éternité. Et une fois que nous nous sommes examinés, nous sommes donc en paix devant Dieu. Alors je vous invite, sans plus attendre, à rentrer dans cette deuxième partie. Et donc nous allons voir aujourd'hui comment Christ est notre prêtre parfait. Christ qui est l'auteur d'une nouvelle alliance parfaite. Donc oui, c'était la diapo que j'avais anticipée. Alors, allons-y. Hébreux chapitre 5, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour vous suivre. Si vous n'avez pas de Bible avec vous, il est encore temps d'en prendre une. Sans Bible, ça va être difficile. Je n'ai pas fait de diapo pour tout, c'est un choix que j'ai fait parce que je manquais de temps et il m'aurait fallu une journée pour faire un PowerPoint complet et malheureusement, voilà, je n'avais pas le temps à ma disposition pour cela, donc c'est très important d'avoir une Bible. Ok, on est parti. Hébreux, chapitre 5, l'auteur va introduire au chapitre 4, à partir du verset 15, mais nous le verrons plus tard, cet office de souverain sacrificateur, alors un mot barbare, nous allons comprendre ce que c'est, et nous allons nous lire à partir du verset 5, où il explique ce qu'est un souverain sacrificateur, et nous allons lire les quatre premiers versets. En effet, Hébreux 5, chapitre 1, « En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. » Donc lui aussi est de la même condition qu'eux, hein, comprenez. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, parce que lui-même est pécheur, comme ceux du peuple, comme pour les péchés du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Donc on ne s'improvise pas souverain sacrificateur, il faut être appelé de Dieu et être de la lignée d'Aaron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un souverain sacrificateur de la lignée d'Aaron? Alors, pour cette section, je m'appuie beaucoup des commentaires de Guntry, de Carson, de Blocher, de Benetro, de Bill, de Stott et de Goldworthy. Voilà, c'est un petit peu les commentateurs que j'ai observés, et je vais les citer par-ci, par-là, mais si jamais une citation m'échappe, en tout cas, sachez que, voilà, ils m'ont beaucoup aidé pour mes recherches. Alors, premièrement, les prêtres rentrent dans le ministère par une onction. Qu'est-ce que veut dire l'auteur par ceci? Ça veut dire tout simplement qu'ils sont consacrés par un geste symbolique qui était l'imposition des mains avec de l'huile, et ils étaient donc consacrés. Pour être consacrés à cet office particulier qu'on va comprendre, il fallait qu'ils soient de la lignée de Aaron. Aaron, c'était le bras droit de Moïse qui l'a aidé pendant tout son pèlerinage et son activité pour le peuple de Dieu. Et Aaron a eu, selon l'ordre de Dieu, l'ordre d'être un Lévite, parce que lui-même est de la tribu de Lévi. Et donc, en fait, les Lévites ont été une tribu que Dieu a mise à part pour être consacrée au culte, à la religion, pour régler toutes ces questions d'ordre de la relation entre l'homme et Dieu. D'accord ? Que sont les prêtres dans l'Ancien Testament ? Eh bien, ils sont en fait l'opposé, le complément parfait des prophètes. Le prophète, c'est Dieu qui parle à son peuple au travers du prophète. D'accord ? Dieu parle à son peuple au travers du prophète. L'Éternel a dit, voici ce que Dieu déclare, voici ce que vous devez faire. Ok ? Le prêtre, lui, parle à Dieu au nom de son peuple. C'est l'inverse. Il se présente devant Dieu et lui offre des sacrifices qui sont nécessaires pour une communion, mais une communion véritable, une communion objective. Vous tous, vous comme moi, on peut se sentir en communion avec Dieu, une communion psychologique, mais est-elle réelle ? Je connais plein de gens qui rejettent absolument l'évangile et qui vont dire « mais moi je suis en paix avec Dieu, j'ai aucun problème ». Mais est-ce que cette communion est réelle ? Eh bien, dans l'Ancien Testament, selon l'ordre, selon la loi de l'Ancien Testament, la loi lévitique, on y reviendra, ces prêtres apportaient des sacrifices à Dieu qui devaient régler l'obstacle à la communion et donc pouvoir retrouver cette communion-là et donc lui offrir un culte. Vous suivez ? Ça va ? C'est clair ? Merci. Et donc, vu que lui-même est pécheur, comme nous le dit le texte, il doit offrir un sacrifice pour lui-même et pour les autres. Ce sacrifice, où est-ce qu'il allait l'offrir ? À un endroit bien particulier dans notre contexte. Le sacrificateur devait rentrer dans le temple, et dans le temple, il y avait une partie au fond du temple qui était séparée par un voile. Cette partie s'appelait le lieu très saint. Le temple, c'est le lieu saint, et derrière le voile, c'est le lieu très saint. Ça formait un cube parfait, et au milieu de ce cube, il y avait l'arche de l'Alliance, dans lequel reposaient les tables de la loi. Et dessus, il y avait un plateau avec deux anges par-dessus, qui le recouvrait, et on appelait ce tableau, ce plateau le propitiatoire. Le souverain sacrificateur, hein, donc le descendant d'Aaron, devait rentrer une fois par an, au-delà de ce voile, avec le sang d'un bouc qu'il avait offert pour le jour, ce qu'on appelait le jour des expiations, le jour du grand pardon de Dieu. Une fois par an, c'est le Yom Kippour. Il entrait dans ce temple, enfin derrière ce voile, en portant le sang de ce bouc, et avec ses doigts, il trempait dans le sang et il aspergeait sur le propitiatoire, où en gros le sang couvre l'offense faite à la loi de Dieu. Parce que cette arche et cette loi de Dieu sur ces tables représentaient la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et pour vous dire, on dit qu'il était attaché à une corde, où derrière le voile, ses compères, même derrière, en dehors du temple, ses compères l'attendaient, pour être sûr que Dieu agrée son sacrifice, y compris pour lui-même. Parce que si Dieu n'est pas d'accord, il s'effondrait parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints. Et cette fonction-là était réservée spécifiquement aux Lévites, cette tribu, mais dans cette tribu des Lévites, à la lignée d'Aaron. Cette lignée-là avait cette responsabilité unique. Les rois n'avaient pas le droit de rentrer dans ce lieu saint. Et on a deux histoires dans l'Ancien Testament, celle d'Ozias, peut-être vous vous souvenez, et celle de Saül, qui ont voulu offrir des sacrifices à Dieu à la place des prêtres. Et vous connaissez les conséquences. Ozias a attrapé une lèpre soudaine qu'il ne l'a jamais quittée, et Saül, lui, a vu simplement son trône, sa royauté, lui être retirée pour être confiée à David. Donc c'était réservé aux prêtres. Et cette distinction entre l'office des prêtres et l'office des rois était bien voulue par Dieu, parce que son objectif était de réunir ces deux offices en Jésus-Christ, à la fois roi, à la fois prêtre. Donc sous l'ancienne alliance, ce n'était pas possible d'avoir ces deux fonctions-là. Je vous invite maintenant à prendre Hébreux chapitre 5 et nous allons voir la section suivante jusqu'au verset 10. Nous allons sauter un passage qui est un avertissement par rapport à la foi, nous y reviendrons demain, et nous sauterons jusqu'au chapitre donc 6, verset 13. Donc, l'auteur vient d'introduire ce qu'était la prêtrise selon la lignée d'Aaron. Et maintenant, il va dire que Christ est d'une lignée de sacrificateurs qui n'est pas celle d'Aaron. Son office de sacrificateur devant Dieu lui vient d'autre part. Et donc c'est là qu'on arrive à ce fameux Melchisédek et qu'on va devoir faire un petit peu comme un accordéon pour comprendre ce texte. Il va nous falloir, là c'est tout compressé, hein, l'accordéon est fermé, il va nous falloir le déplier pour voir la typologie, donc pour voir comment est-ce que ce Melchisédek préfigure qui est Jésus. Comment est-ce qu'il nous révèle déjà certaines choses à propos de Jésus. Alors, je lis chapitre 5, versets 5 à 10. « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. » Donc il n'a pas décidé de lui-même de devenir un sacrificateur, comme l'étaient les sacrificateurs, il fallait être de la lignée d'Aaron. Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Citation du psaume 2 qui arrive au chapitre 1, verset 5, il le reprend encore. « Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Et là il cite un psaume, le psaume 110, un psaume écrit par le roi David. Donc tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Celui, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc dans sa vie, a présenté avec de grands cris et des larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous sautons, nous allons au chapitre 6 à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc ça, il parle de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint avec un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Nous allons revenir là-dessus, vous inquiétez pas, vous reprendrez le fil historique. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Melchisédek veut dire roi de justice, d'accord ? Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Son village, c'était Salem. Son village voulait dire paix. Il est le roi de la paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable, notez bien, rendu semblable au Fils de Dieu. Il ne dit pas qu'il est comme, il est rendu semblable. Par la révélation de Christ, cet homme est rendu semblable. Ça annonce ce qu'on appelle la typologie. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez bien combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne ferait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Donc Abraham est dépositaire des promesses de Dieu pour la bénédiction et il y a ce Melchisédek qui sort un petit peu de nulle part, qui vient bénir Abraham. Abraham lui-même, celui qui avait une promesse excellente, trouve quelqu'un qui lui est supérieur. Un personnage mystérieux, mais qu'il ne sera plus dans quelques instants. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, on y vient, il revient à ce qu'il disait au chapitre 5, versets 1 à 4, il revient au sacerdoce lévitique. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, ce qui ne l'est pas, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Il repose là-dessus. La loi, le sacerdoce est une loi. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et selon l'ordre d'Aaron ? Pardon, j'ai dit quoi ? Non, et non selon l'ordre d'Aaron, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui qui a des choses
celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. »
Là, l'auteur établit un point, il dit « Jésus, il est bien de la tribu de Juda, il n'est pas de la tribu d'Aaron. Il n'aurait pas dû être souverain sacrificateur, il ne pouvait pas l'être. Mais Dieu dit que lui, il est souverain selon l'ordre de Melchisédek. Et ce Melchisédek, dans la chronologie biblique, est un personnage bien antérieur à la tribu de Lévi et au peuple d'Israël, puisqu'il correspond dans la période à la vie d'Abraham, qui est le premier d'Israël. D'accord ? Donc Melchisédek est antérieur à Aaron. Je vais vous expliquer.
Cela devient, verset 15, plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, c'est la loi du Lévitique, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il revient à sa première citation tout à l'heure que nous avons eue au chapitre 5. Et il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même garant d'une alliance plus excellente. Alors, vous l'avez vu, il y a plusieurs fois cette citation du psaume 110. Mais avant d'aller la lire dans le psaume, c'est très intéressant de parcourir le Matthieu chapitre 22, verset 41. Comme Matthieu 22, 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ?» Jésus pose donc une question à ses religieux. « Qu'est-ce que vous pensez du Christ ?» C'est-à-dire du Messie, le Messie qui était attendu, d'accord, par le peuple. « De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent « De David ». Donc, ils avaient compris qu'il devait être de la lignée de David, un descendant du roi David, de la tribu de Juda, selon 2 Samuel 7, cette promesse faite à David que de lui viendrait un roi qui régnerait éternellement, à perpétuité. Et Jésus leur dit, comment donc David, l'auteur donc de ce psaume, animé par l'Esprit, donc vraiment conduit par la direction du Saint-Esprit dans sa rédaction, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Alors, Jésus cite une phrase du psaume 110. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les temps biblique, l'honneur adressé au père est quelque chose de très important. Un père ne dirait pas à son fils « tu es mon Seigneur ». D'accord ? Ceci n'est pas possible, c'est inconcevable. Pourtant, Jésus relève que David parle à son Seigneur. Donc, comment comprendre que son fils, alors que normalement il a un rang en dessous du père, il l'élève avec ce rang-là de Seigneur ? Nous allons le voir parce que l'argumentaire de Jésus repose spécifiquement sur le fait que ce psaume soit écrit par David. Si David n'est pas l'auteur de ce psaume-là, tout s'écroule. Parce que David parle d'un Seigneur qui est à venir, vous allez voir, qui est roi et sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Maintenant, nous devons aller au psaume 110. Psaume numéro 110. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré. Il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère, etc. Alors, maintenant, nous allons en Genèse chapitre 14 tout de suite. Et ça va nous éclairer pour tout le reste. Genèse, chapitre 14. Vous voyez comment l'Ancien Testament est utile pour comprendre l'Évangile, comment l'auteur va puiser toute une pensée, toute une trajectoire qu'il y a. Alors, Genèse, verset 17, chapitre 14, verset 17. Alors, Abraham a une guerre. Alors, on parle de rois dans la Genèse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les rois de l'époque, en gros, c'est des maires de village. Ils avaient un village sur 800 personnes. C'était une ville, une cité indépendante. On appelle ça, donc, son gouverneur, c'est un roi. D'accord ? Il ne faut pas s'imaginer le roi Nebuchadnezzar ou un pharaon ou des choses comme ça. C'était des petits rois, quoi. Après qu'Abraham fut devenu vainqueur de Kedor la Homère, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, donc un village, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et il lui dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Abraham accepte cette bénédiction d'être béni, hein, d'être béni au bénéfice de cet office de prêtre et de roi qu'a ce Melchisédek, et en retour lui offre la dîme de tout ce qu'il possède. Alors, on voit que ce Melchisédek est le contraire du roi de Sodome, qui était un roi polythéiste, un roi perverti comme pas possible. Abraham rejette ce que Sodome lui offre, mais il reconnaît en Melchisédek la même foi que lui a, le même Dieu unique, souverain au-dessus de tout. Et le texte l'appelle Élion, c'est le Dieu puissant souverain. Il voit qu'il est roi, roi de justice, comme je vous l'ai dit, et roi de paix de son village. Très intéressant, probablement Salem sera plus tard la ville de Jérusalem. Zalem, où David sera roi et où il fera venir le tabernacle pour que dans la même ville, il y ait le roi et les sacrificateurs réunis. Mais ce Melchisédek, lui, avant David, était déjà au même lieu. Et lui, il était non seulement roi, mais aussi prêtre de l'Éternel, avant que la loi de Moïse soit donnée. Vous comprenez ? Chaque personne importante dans la génération... J'ai dit une bêtise ? La petite. Ah, la petite. Ah oui, d'accord. Okay. Papa t'expliquera. Chaque personne importante dans la Genèse a une généalogie. La Genèse, c'est le livre des commencements qui nous montre toutes les traces qu'il y a dans l'humanité. C'est le commencement de la création, c'est le commencement du peuple d'Israël, etc. Et au milieu de tout ça, on a ce Melchisédek qui est là. Regardez dans le texte, on nous dit qu'il n'a ni commencement ni fin, qu'il sort de nulle part. Et si on relit le texte, j'aime bien, c'est Carson qui fait cette réflexion, Si on saute le verset 18 au verset donc 22, bah, ça n'ampute rien au récit. Melchisédek occupe trois petits versets. Alors pourquoi est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rabâche pendant deux chapitres l'importance que Christ soit sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? En Hébreux 7, verset 3, il est rendu semblable, introduit ce qu'on appelle la typologie. C'est un typos, semblable, c'est typos, donc ça veut dire que c'est un type. Puisqu'il est roi et prêtre, il a les deux offices. Il est d'une autre loi que la loi des Lévites. Il est d'un ordre supérieur à celui du Lévi, puisque lui, il était roi en plus d'être prêtre. Il ne découle pas non plus de la loi de Moïse. Il lui est antérieur. Une espérance pour David, c'est que le Messie, qui sera son descendant, un jour, dans ce psaume-là, David dit, comprend, qu'il sera roi, ce Messie, mais qu'en plus d'être roi, il sera aussi prêtre, non pas selon la loi qu'il connaît, mais selon quelque chose qui la précède. D'accord ? Un ordre supérieur. Il ne découle pas de la loi, il la précède. Et c'est l'espérance de la grâce de l'Évangile par le Messie qui va sauver. L'Évangile est au cœur de toute la Bible, pas seulement dans le Nouveau Testament. Il faut se le rappeler, toute la Bible pointe vers l'Évangile. Pourquoi l'auteur remet à jour donc ce sacerdoce? Ici, l'auteur montre qu'il a compris tout le développement. Lui, il a tout le film. Il peut rembobiner et voir tous les épisodes de chacune des saisons du récit biblique. Et il peut comprendre toutes les énigmes et il comprend comment tout cela est raccord, comment tout cela forme quelque chose d'unique. Si on change la loi, on change l'alliance. Si on change le sacerdoce, on doit nécessairement modifier l'alliance. Et donc, quand il dit que Christ est selon l'ordre de Melchisédek, ça veut dire qu'il est d'une loi antérieure à la loi des Lévites. Il est de quelque chose qui les précède. Et vu que Christ est venu et qu'il n'est pas selon l'ordre des Lévites, de Aaron, il faut nécessairement que la loi des sacrifices de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, cesse. Le régime de Moïse doit cesser parce que Christ a accompli un sacrifice qui est supérieur à celui que tous ces sacrificateurs ont pu apporter pendant des siècles dans le temple. Et donc, vous voyez, il y a une minutieuse préparation de l'auteur pour nous présenter Jésus-Christ comme sacrificateur. Dieu lui-même l'a appelé, selon le psaume 110. C'est Dieu qui l'a déclaré comme étant sacrificateur. Rien ne lui manque pour accomplir ce dont Aaron était la préparation, la figure. Jésus-Christ, en tant que sacrificateur, a offert son propre sacrifice. Vous vous souvenez, le sacrificateur devait rentrer avec le sang d'un bouc. Christ, lui, est à la fois le sacrificateur, parce qu'il rentre dans le tabernacle, dans la tente, dans le lieu très saint, même carrément sur le propitiatoire, il va le poser le sang sur la croix, symboliquement, je voulais l'expliquer. Mais en plus, il offre son propre sang. Il est sacrificateur. Jésus est le sacrificateur, mais il est aussi le sacrifice. Et je vous invite à aller dans Hébreux chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre perpétuellement, chaque année, perpétuellement, chaque année, encore et encore, amener les assistant à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. En gros, l'ordre de la loi est là pour renouveler la conscience du pécheur, qu'il est bien pécheur. Ces sacrificateurs se rappelaient qu'ils étaient pécheurs. Galates chapitre 3, vous vous souvenez ? La loi qui a ce rôle de révélateur de nos transgressions. C'est la même idée. Mais le souvenir des péchés, donc, est renouvelé. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir une seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. J'arrête ma lecture ici. Il est le sacrificateur sacrifié. Il s'est offert lui-même. Où se trouve la question du valeur du sacrifice de Christ ? C'est une question que je me suis posée dans les temps qui ont suivi ma conversion. Pourquoi est-ce que Christ, lui, est vraiment un sacrifice supérieur aux autres ? Première chose, c'est peut-être une évidence, mais ce n'est pas un animal. Il était homme et il était parfait, et il s'est offert lui-même. Aucun animal n'a voulu être un sacrifice pour l'Éternel. On est bien d'accord. Mais lui-même, il s'est offert. Il s'est offert, non pas comme martyr, bouleversé par des événements qui lui sont extérieurs, comme une victime de faits politiques, mais il s'est offert lui-même par sa pleine volonté. Particularité unique de Christ, c'est parce qu'il n'a pas péché et qu'il offre son propre sang à la croix qu'il est supérieur. Le sang de Christ, c'est-à-dire qu'il est lui-même mort, c'est-à-dire qu'il a offert sa mort comme sacrifice à Dieu pour le pardon, non pas de ses péchés, puisque lui n'a pas péché, mais pour le pardon de nos péchés, pour les pardons du péché de son peuple. Il est la réalité, hein, au chapitre 9, verset 18, dont Moïse avait fait une image par la loi. Il faut se rappeler que Moïse avait contracté la même alliance que David par le sang. Exode 24, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Il y a une correspondance entre ce qu'a fait Moïse et ce qu'a fait Jésus-Christ. Moïse a aspergé du sang sur le peuple, Christ asperge son sang sur son peuple. Il nous couvre par son sang, par son sacrifice, par sa mort. Il nous protège de la colère de Dieu qu'il a pris lui-même à notre place. Et ça, les sacrifices des Lévites étaient incapables de le faire. Dans le plan de Dieu, c'est clair, il n'était que temporaire. Il n'était pas voué à exister à perpétuité. Et quand sa chair à Christ s'est déchirée sur la croix, le voile du temple s'est déchiré lui aussi, parce qu'il a pénétré dans le temple céleste. C'est une image spirituelle, c'est une équivalence sur la croix. En fait, c'est comme s'il était rentré comme un sacrificateur au-delà du voile avec son propre sang, et qu'il l'avait offert une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Nous sommes justifiés par notre foi en son œuvre, non pas par nos œuvres à nous, qui ne peuvent pas nous apporter ceci. Il a partagé notre humanité, donc il a pu s'identifier à nous, prendre l'identité du représentant des hommes devant Dieu, qui est le sacrificateur, celui qui représente les hommes devant Dieu. Christ a pris cette identité-là, alors qu'il est lui-même Dieu. Il a pris l'identité des hommes, et en particulier des sacrificateurs, pour aller présenter à Dieu son propre sacrifice. Henri Blocher dit que l'incarnation et le sacrifice de Dieu le Fils est l'expression parfaite de l'engagement de Dieu en faveur de quiconque veut bien croire en lui. Jean Wessel, un théologien du XVe siècle, lui disait « Lui-même à la fois Dieu, à la fois prêtre et victime, il a été le destinataire, le sujet et le moyen de notre salut. » Et puis Christ ne s'est pas arrêté là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est souverain, sacrificateur, mais pour l'éternité. Que fait Christ aujourd'hui pour nous ? L'ascension de Christ, Hébreux 8, chapitres 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pour un homme. L'ascension marque le début, son entrée dans les cieux où il siège à la droite de Dieu. Et que fait-il pour nous ? Il intercède par son sacrifice. Comment être sûr de mon salut ? Comment est-ce que vous pouvez être sûr de votre salut ? C'est une des questions qu'a l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il faut que vous soyez au clair sur qui est Christ pour vous. Ce qu'il a fait à la croix, c'est ce qu'il répète, et ce qu'il continue de faire pour vous. Parce que son œuvre dans votre vie dépasse ce que vous imaginez. Parce que Jésus est vivant, sur le siège à la droite du Père, Hébreux chapitre 7, 25, il intercède pour moi. Le prédicateur Alexander McLaren, qui était un très très grand prédicateur du 19e siècle, 150 ans, disait « Quelque chose m'a frappé en lisant ces deux premiers versets de ce chapitre, chapitre 8, verset 2, ce qu'on vient de lire. Dans le premier verset, nous voyons Christ, roi, assis sur son trône à la droite du Père. » Donc Christ est roi. Dans le second verset, nous voyons Christ, serviteur, ministre du Saint-Sanctuaire. En régnant, il sert, et en servant, il règne. En régnant, il sert, et en servant, il règne. Christ est un roi serviteur. Il préserve ce qu'il a accompli sur la croix. Il préserve son alliance. Impossible de sortir de son alliance. Impossible d'être rejeté par Dieu dans le cadre de cette alliance. Elle est supérieure à l'alliance qu'il avait faite avec Moïse. C'est pourquoi nous revenons maintenant au tout début du développement sur cette thématique à partir du chapitre 4, verset 15. Chapitre 4, verset 14. Excusez-moi. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il ne parle pas simplement d'une assurance émotionnelle ou psychologique. C'est une assurance qui est totale, autant intime émotionnelle que théologique. Parce que Christ a objectivement, devant Dieu, réglé une fois pour toutes le problème du péché pour ceux qui croient en lui. Donc persévérons dans notre foi que nous professons avec assurance. Parce que Christ a porté mon péché. Je n'ai pas à trembler comme ces souverains sacrificateurs qui rentraient dans le lieu très saint pour savoir s'ils allaient ressortir entiers ou pas. Je peux, moi, m'approcher avec assurance. Parce que Dieu voit le sacrifice de Christ. Il s'est identifié pleinement à moi. Quand Dieu me voit, il voit Christ qui s'est offert pour moi. Si j'ai mon assurance de mon salut aujourd'hui, c'est parce que je sais que Christ est perpétuellement entre moi et Dieu, le Père, comme médiateur. Dieu le Fils intercède auprès de Dieu le Père pour moi. Et Dieu le Père agréé et heureux du sacrifice, pleinement satisfait du sacrifice de son Fils. Et comme héritage qu'il offre à son Fils, il lui a offert toute chose, de régner sur tout le cosmos. Waouh ! Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de l'office de Christ actuellement dans nos vies. C'est quelque chose, moi, qui me dépasse. Et déjà, même à chaque parole que je dis, je m'en veux parce que je sais que je ne rends pas fidèlement toute la beauté, l'éclat de ce qui se passe. Il nous reste 10 minutes. À 8h15, nous allons manger. C'est bien ça, hein ? Oui. Je vous propose, dans le temps qui reste, parce qu'il faut que je réfléchisse, excusez-moi, je regarde juste la longueur de ce que j'ai dans l'autre section pour savoir si c'est raisonnable de m'y lancer en 10 minutes. Oui, je peux commencer une partie. Et ce que je vous propose, c'est que je vais introduire la question de la perfection de la nouvelle alliance, qui est exprimé au chapitre 8, les versets c'est 6 à 13. C'est vraiment, ces versets du chapitre 8 sont vraiment clés dans le Nouveau Testament. Sans eux, et sans par exemple le chapitre 3 de Galates, ou Romains 8 et 9, on aurait du mal à faire le lien entre Christ, la nouvelle alliance, hein, et nous, comment est-ce qu'on peut être au bénéfice du Dieu d'Israël et l'Ancien Testament. C'est vraiment des passages qui sont charnières et qu'il nous faut absolument, en tant que chrétiens, comprendre et, en plus de comprendre, savourer et s'approprier. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir simplement quel est le contenu de la Nouvelle Alliance. Et ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui le souhaitent, de façon tout à fait facultative, sans que l'on empiète sur le temps de repas et le temps de dessert, de communion fraternelle, de discussion, etc., s'il y en a qui le souhaitent, parce que j'avais eu aussi des questions et certains m'ont demandé si on aurait un temps de questions-réponses conséquent, et bon, vous avez vu la densité, j'ai eu du mal à être plus synthétique que cela, mais si vous voulez, ceux qui le souhaitent, après le temps de dessert et tout ça, on peut se retrouver là et je peux vous expliquer plus en détail ce qu'est la Nouvelle Alliance et on peut avoir ce temps de questions-réponses où il y a eu notamment comment ça se fait que Christ domine sur Satan et qu'on voit toute l'activité de Satan sur Terre. C'est une vraie épine, hein, pour nous. Donc je pense que l'Épître aux Hébreux nous apporte quelques réponses là-dessus. Alors, Hébreux 8, chapitre 8, verset 10-12. L'auteur cite encore une fois l'Ancien Testament pour nous expliquer ce qu'est la Nouvelle Alliance. En ce sens, le Nouveau Testament ne nous apporte pas de révélation en plus que ce qu'apporte l'Ancien Testament sur ce que devait être la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, il y avait bien cette idée de la part des prophètes, et que je vous expliquerai pour ceux qui le souhaitent après, que le régime de mosaïque, hein, le régime de la loi instauré par Moïse, n'était que transitoire, n'était que préparatoire à l'évangile. Depuis le début, même avant la fondation du monde, nous le savons, Dieu a en perspective l'évangile, a en perspective la gloire de Christ qui passerait par sa mort à la croix et sa résurrection.
et la vie éternelle pour nous. Dieu a un plan qu'il dévoile petit à petit. Dans la Bible, c'est un petit peu, j'aime bien cette image qui est souvent utilisée, que j'ai vue dans plusieurs commentaires, cette image du soleil. Il y a une promesse qui est celle de l'Évangile qui commence au début de la Bible. Et c'est comme, vous savez, la course du soleil, les premiers rayons. On n'imagine pas toute la puissance qu'il y a dans ces rayons. On ne les voit pas bien encore, mais c'est déjà beau. Et puis plus le temps passe, plus le soleil brille. Dans la Bible, c'est pareil. Plus le temps passe, plus l'Évangile nous est dévoilé pleinement et brille et nous permet de regarder en arrière et de comprendre. D'accord ? Donc, Hébreux 8, chapitre 10, 8, pardon, verset 10. Il cite le prophète Jérémie, chapitre 31 dans l'Ancien Testament. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. » Première chose, la promesse de la loi. « Et puis, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Il dit ça à Israël, hein. Il y a déjà l'alliance où Dieu a dit ça. Étonnant, hein. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Le plus petit, c'est dans le sens le plus insignifiant. Parce que, ce « parce que » est très important, je pardonnerai leurs iniquités. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Première chose dans le contenu de cette alliance, c'est que Dieu a dit plus tôt, au verset 8, où il dit « Je ferai avec la maison de Juda, hein, avec la maison d'Israël de Juda, une alliance nouvelle. » Nous sommes les chrétiens, c'est-à-dire au sens biblique du terme, pas simplement de se dire chrétien, mais d'être né de nouveau, d'avoir reçu le Saint-Esprit, selon la promesse de l'Alliance. Nous sommes membres de cette Alliance, ce qui implique que nous sommes membres de l'Église, ce qui implique que nous n'allons pas à l'Église, ce qui implique que nous sommes membres, participants d'un même corps, différents membres d'un même corps. On n'est pas spectateur de l'Église en tant que chrétien. On est membre d'un corps qui est celui de Christ. Nous sommes l'Église. De la même manière, comme l'illustre Pascal Denot, que je ne fréquente pas mon épouse, mais que je lui appartiens et qu'elle m'appartient par une relation d'alliance. D'accord ? Les chrétiens doivent comprendre qu'ils ne sont pas de libres adhérents de l'Église, qu'ils prennent leur carte comme dans un club et qu'ils vont participer, je ne parle pas des activités de notre Église, hein, mais participer à la volonté de Dieu pour son Église à la carte. Moi, je veux bien être chrétien, par contre, être témoin de Christ dans ce monde, pas pour moi. Ou moi, je veux bien être chrétien, mais la sanctification, renoncer au péché, le mortifier carrément, livrer une guerre contre le péché dans ma vie, pas pour moi. Ce n'est pas possible dans cette alliance. Il y a une loi, je mettrai mes lois dans leur cœur. La loi morale de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements, qui étaient gravés sur des pierres, qui étaient dans l'arche, qui étaient dans le Saint des Saints, donc qui étaient extérieurs aux hommes, dans la nouvelle alliance, en nous régénérant par Saint-Esprit, Dieu grave dans notre cœur par son esprit selon l'accomplissement fait à Ézéchiel aussi 36, hein, où il mettra ses lois au-dedans de nous par son esprit, où il nous renouvellera, nous purifiera. Que fait donc l'esprit dans ma vie? Simplement, il est là pour me conduire, pour m'aider à obéir à cette loi. Il renouvelle notre intelligence pour que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu qui est exprimée parfaitement par les 10 commandements. Je parle de sa volonté morale.
Il renouvelle l'image de Christ en nous par sa parole. Le Saint-Esprit est là pour renouveler l'image de Jésus-Christ en moi, parce que l'objectif de Dieu est de me transformer à son image. Christ, lui, a obéi parfaitement aux lois morales de Dieu. Aucune transgression, on l'a vu. Une obéissance parfaite, il a obéi pour moi. Mais aujourd'hui, en tant que membre de son alliance, Dieu me demande d'obéir comme lui. Il est son modèle. Mais pour pouvoir ce faire, Dieu me donne son esprit qui renouvelle en moi son image. La liberté ne consiste pas à être sans la loi, de faire ce que l'on veut, d'être un bandit, un hors-la-loi. De toute manière, on est soumis à une loi, soit celle de Dieu, soit celle du péché. Ce n'est pas être sans la loi, mais c'est être affranchi du péché. La vraie liberté, c'est être libre de ne pas pécher. Et ça, il n'y a qu'une personne née de nouveau qui peut le vivre. Lorsque Dieu regarde le monde, il reconnaît ceux qui lui appartiennent. Parce que nous sommes, comme le dit Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Comment l'amour de Dieu est-il manifesté en nous ? Par ses commandements que nous gardons, ce qu'il a écrit dans nos cœurs et déposé dans notre esprit. La connaissance personnelle de Dieu est l'autre élément de cette promesse. Vous voyez, le prophète dit qu'il n'y aura plus jamais d'enseignant. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce que moi, là, par exemple, je suis en train de faire une bêtise, en train d'enseigner ? Certains, dans des mouvements de l'Église, dans l'histoire, ont interprété ça en disant ben, « il ne faut aucune autorité, personne n'a droit à dire quoi que ce soit, Dieu parle dans mon cœur. » D'accord ? Mais est-ce que c'est ça que veut dire l'auteur ? Il faut plutôt comprendre que la connaissance dont il est question n'est pas enseignable. Il ne s'agit pas de connaître des choses sur Dieu, mais de le connaître lui, personnellement. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il ne s'agit pas d'être des théologiens, d'être indépendant de qui que ce soit d'enseignant, mais d'être totalement de connaître parfaitement qui est Dieu. Et par le Saint-Esprit et la parole, nous le connaissons. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait des personnes désignées qui devaient dire « connaissez, voici qui est l'Éternel ». Le peuple n'avait pas cette connaissance personnelle envers Dieu directement. Il avait besoin de quelqu'un qui lui dise « voilà comment est Dieu, qui il est ». Par le Saint-Esprit qui renouvelle en nous l'image de Christ, nous connaissons Dieu qui se révèle par sa parole. De plus, quand nous lisons le Nouveau Testament, on voit bien aussi qu'il y a des commandements où les apôtres voulaient qu'il y ait des enseignants. D'accord ? Donc chaque personne de la Nouvelle Alliance a un accès personnel à Dieu, dans ce sens-là, qu'il n'a plus besoin de médiateurs comme sous l'Ancienne Alliance, où il y avait les prophètes, les enseignants, les docteurs de la loi, etc., qui disaient qui est Dieu. Et le peuple, le quidam, l'ignorant, n'avait pas accès à Dieu. Là, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a personne qui puisse me dire « Non, non, toi, tu ne peux pas savoir qui est Dieu. Moi, je sais, je vais te dire qui il est. » Le seul médiateur dans la Nouvelle Alliance est Jésus-Christ pour nous. Et donc, nous devons le connaître. Nous pouvons le connaître. Et puis, la dernière chose, c'est simplement le pardon des péchés, au verset 12, « parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce « parce que » indique que les deux premières choses que je viens de dire, c'est-à-dire avoir la loi de Dieu dans son cœur, avoir une connaissance personnelle de Dieu, ne sont possibles que parce qu'il a pardonné nos péchés. Il la cite en troisième, mais c'est pour la mettre en valeur. Parce qu'il a pardonné nos péchés, nous recevons la loi. Parce qu'il nous pardonne, il nous justifie. Parce qu'il nous pardonne, il nous justifie, et nous avons une relation avec lui, il nous adopte. Le pardon est antérieur. La purification du péché est antérieure à toute chose. Et si Dieu ne nous traite pas comme des pécheurs, comment est-ce qu'il nous traite ? Comme ses enfants, comme justifiés, comme déclarés justes devant lui. Et une dernière précision, il est toujours, il est 16, ça vient de passer à 16. Sur quelle base Dieu pardonne-t-il nos péchés? Pendant pas mal de temps, j'aurais répondu à cette question, Dieu me pardonne sur la base de ma repentance. Si je me repens, Dieu va me pardonner. C'est sur la base de ma repentance que Dieu va me pardonner. Et cette réponse, je l'ai entendue souvent. Or, c'est se tromper, parce que cette réponse confond le moyen et la cause. Le moyen, c'est la repentance, la foi. Mais la cause du pardon de Dieu, c'est le sacrifice de Christ. Et ça, nous ne devons pas l'oublier pour vivre libre, pour vivre dans la grâce. Dieu nous pardonne uniquement sur la base du sacrifice de Jésus-Christ. Il va donc deux fois, puisque nous sommes justifiés, que nous marchions dans l'obéissance de la loi, maintenant gravée dans nos cœurs. Hébreux 8, chapitre 3. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Un sujet tellement immense quand on plonge dans les perspectives du salut, que l'on est totalement dépendant de toi pour que tu illumines l'image de Christ. Seigneur, nous comprenons que sans l'ancienne alliance, sans ces sacrificateurs qui venaient offrir constamment des sacrifices pour le pardon des péchés, nous ne comprendrions pas à quel point le péché est grave. Nous ne comprendrions pas à quel point nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous révèles que tu accomplis un sacrifice qui est parfait pour nous. Un sacrificateur sacrifié qui maintenant, aujourd'hui, intercède pour moi, pour me garder dans son alliance. Une alliance qui est inconditionnelle, qui repose sur ton obéissance à toi et non la mienne, et dont je suis au bénéfice par la foi, dont je suis justifié par la foi. Seigneur, je te prie de renouveler en nous l'image du sacrifice de la croix, pour renouveler notre foi, nous encourager à aller dans ta parole comme des chercheurs d'or, des chercheurs de perles, de trésors. Seigneur, permets-nous de comprendre l'unité de ta parole, de pouvoir savourer l'Ancien Testament dans l'attente de l'Évangile et de pouvoir voir cette délivrance de l'Évangile et se l'approprier. En ton nom. Amen. Donc, pour ceux qui le souhaitent, de façon totalement optionnelle, après le temps de dessert,